Bonjour chers auditeurs, nous allons nous retrouver aujourd'hui dans une émission préenregistrée, on vous l'a dit, mais une émission d'un très très grand intérêt, par conséquent je ne sais pas quand elle sera diffusée, mais je vous prie d'être très attentif à ce que vous allez entendre aujourd'hui, car j'ai la joie d'accueillir d'abord mon assistant.
Mon bonjour cher
Eric.
Didier, bonjour, ça bonjour chers auditeurs.
Voilà, on se retrouve avec grand plaisir. Et puis j'ai deux invités de très grande qualité et avec une particularité tout à fait originale, et ça, je suis extrêmement curieux d'entendre Enju.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coréenne d'origine, mais vous êtes mariée à Frédéric Moreau.
Qui est français.
Qui est français et violoniste.
Et violoniste de grand talent.
Et que les auditeurs connaissent très bien, puisque c'est le violoniste des violons de France.
Fondateur.
Fondateur des violons de France. Et je crois que nous entendons chaque mois l'intégralité des annonces des concerts des violons de France cette émission.
Dans cette belle église de la Madeleine parfois avec comme violoniste solo Frédéric Moreau.
Quand il nous fait la gentillesse d'être en France.
D'être en France, oui, oui, c'est très peu souvent, malheureusement. On se l'arracherait entre la Corée et la France.
Alors, bonjour à tous, et je dois d'abord dire que c'est cette année les 30 ans des violons de France.
30 ans
30 ans déjà.
Ça, c'est très désagréable.
J'arrive pas à croire que vous avez 30 ans.
C'est très désagréable parce que, bon, évidemment, ça montre que le temps passe et que... Ouais. Cher Eric, tu vieillis.
Bon. Oui, mais je devais être né quand les violons de France ont été créés.
Voilà, sans doute. Alors voilà, alors cette émission va être... j'espère pour partager cette... cette originalité, cette passion absolument avec notre invité, avec nos invités d'aujourd'hui, car nous allons parler de synesthésie.
Synesthésie.
Et alors ça peut paraître un terme un peu bizarre, c'est tout simplement, c'est une capacité d'attiser en quelque sorte plusieurs styles d'expression artistique. En même temps, parfois inattendu, on va peut-être, médicalement, on ne fera pas trop de lucubrations. D'abord, je ne suis pas spécialiste, mais c'est tout à fait intéressant, la synesthésie qui est différente de la chronochromie. Que Olivier Messiaen, ici même dans ce studio, il y a 30 ans, pardon, mais il y a 30 ans déjà.
À la naissance.
Nous avait déployé, etc. Et c'est tout à fait intéressant. Alors, Enju, oui. Qu'est-ce que la synesthétique Pardon d'attaquer comme ça.
Je ne suis pas scientifique pour vous expliquer ce que c'est
exactement. Heureusement, cher Enju.
Mot à mot. Mais ce que je ressens, je peux vous expliquer
ce qui nous intéresse.
Donc pour moi, c'est très naturel. Depuis, je suis née dans une famille artistique. Mon grand-père maternel était un très grand passionné de l'art, il collectionnait beaucoup, il avait beaucoup d'amis artistes, donc il invitait beaucoup à la maison. Donc ma mère pianiste, ma tante artiste peintre, donc j'étais un petit peu née...
Dans un bain,
ouais, exactement. J'ai fait très vite la connexion entre la musique et la peinture. Ça n'a jamais été séparé dans ma tête, en moi. Donc quand j'entends la musique, je vois les couleurs. Quand je vois les couleurs, c'est la musique.
C'est ça.
Voilà.
Alors ça, c'est très intéressant parce que d'abord, c'est un don. Mm-hmm. Tout le monde ne l'a pas. Mm-hmm. Je crois que c'est 4% de la population du monde qui peut se réclamer de synesthésie, mais la plupart ne le savent pas.
Exactement.
La plupart ne se le révèlent
pas. Je ne sais pas si moi-même est inscrit dans ce pourcentage.
Voilà. Mais alors, alors, pardon, j'ai omis auprès des auditeurs, mais ils auront, j'espère, la curiosité d'aller voir vos sites, enfin, etc. Enju, ça s'écrit pour les auditeurs, je le dis, E-N-J-U.
E-U-N.
E-U-N.
E-U-N, pardon. J-U. Et donc, il y a un site. Et là, vous pourrez, chers auditeurs, puisque nous sommes à la radio, on manque un peu d'éléments, mais vous pourrez voir les toiles qui sont sur le site. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de faire la correspondance, évidemment, quand on est musicien, avec les œuvres que vous entendez, que vous jouez.
Que je joue.
Et les œuvres que vous allez peindre. Alors, comment est-ce que vous pouvez exprimer comment se fait cette corrélation entre ce que vous entendez? Est-ce que c'est une construction intellectuelle, en un mot, ou est-ce que immédiatement vous voyez les couleurs? Et puis on parlera du rythme après.
Donc, ça, on me pose beaucoup cette question. Est-ce que c'est la pièce en entier? Est-ce que c'est une phrase? C'est tout de tout ça, en fait. C'est, des fois, ça peut être une phrase qui me reste en moi, que je vis pendant les répétitions, les concerts, l'atmosphère de la salle. Ça peut être l'acoustique de la salle. Oui. Il y a tout un tas de trucs, de choses qui...
Oui, c'est très bien. On comprend parfaitement.
Qui peut devenir des couleurs et des formes.
C'est ça. Mais alors, vous les percevez, vous les voyez, vous les ressentez.
Oui, je ressens et je vois.
Là, je
en fait,
parle de...
c'est la pluie des couleurs.
Il y a l'émotion musicale.
Oui.
Et puis, immédiatement, c'est ça qui est extraordinaire, en quelque sorte, hein, au sens propre du terme, immédiatement, vous percevez la couleur qui va devenir une toile.
Oui, mais ça ne devient pas tout de suite un résultat sur le tableau. C'est beaucoup de travail en moi, de maturation. Je fais mûrir cette sensation que je ressens pendant les répétitions, justement. Et puis avec un silence total, contrairement à ce qu'on peut penser, j'écoute pas la musique pendant que je peins. C'est dans le silence total que je produis, crée les couleurs et les formes que je vois à l'intérieur de moi.
Alors, c'est extraordinaire. Malheureusement, on peut pas voir, les auditeurs ne voient pas les toiles. Je les invite en même temps qu'ils écoutent l'émission
à aller sur Internet. Mais j'espère qu'ils peuvent imaginer entendant le...
Parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir les dominantes de couleurs en fonction des œuvres que vous avez ressenties, etc. La valse Ravel est bleue, si je ne m'abuse.
Avec beaucoup de violet.
Avec beaucoup de violet, exact. Et alors, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est qu'il y a un style, bon, ça c'est personnel au peintre, au créateur, et le rythme de la valse se ressent à travers... Alors, est-ce que c'est le dessin ou est-ce que c'est simplement la façon de construire la couleur?
C'est un... Vous savez, avec l'archet, quand on a un archet dans la main...
L'archet de violoncelle, en l'occurrence.
Voilà,
on le dira tout à l'heure, on parlera
comme je suis violoncelliste. quand j'ai cet archet, on essaie de créer un son avec couleur. Justement, on nous demande beaucoup quelle est la couleur de Ravel, quelle est la couleur de cette phrase, qu'est-ce qu'on doit exprimer avec l'archet, avec l'instrument. Et au moment où je crée le tableau, quand je peins, le pinceau devient mon archet et puis je transmets mon énergie, le rythme de en forme, en différents styles et puis de formes.
Oui, tout à fait. Je visualise, en même temps que vous parlez, je visualise vos œuvres et que j'ai regardées, bien sûr, sur Internet. Et par conséquent, je comprends tout à fait. Est-ce que vous dessinez d'abord quelque chose ou est-ce que c'est immédiatement la mise en couleur de la toile?
Alors, la base, c'est la couleur, c'est les couleurs. Et puis, comme je travaille sur un papier qui s'appelle Hanji, c'est un papier coréen qui date de très longtemps et qui est un trésor national en Corée.
Oui.
C'est un papier qui est réputé pour être le papier le plus résistant au monde.
D'accord.
C'est pour ça que les musées comme le Louvre a choisi ce papier-là pour restaurer les,
ah oui,
les tableaux de maître.
D'accord, voilà, ah oui, c'est... en effet.
Et puis quand on visite la Corée, on visite le palais, la maison traditionnelle qui s'appelle Hanok, les vitres, les meubles sont faits avec ce papier.
Ah, en effet.
En effet. Et très, très résistant, voilà. Et
d'accord,
puis quand on le touche, on voit tout de suite le fibre qui vibre, mm-hmm, qui sont vivants. Et je ne veux pas gâcher cette énergie. Donc, ça me convient très bien parce que quand je peins, je fais en une fois, on va dire.
D'accord, c'est un G.
Oui, c'est comme le concert. Je ne reviens pas en arrière.
D'accord.
Je n'efface pas. Je ne corrige pas.
La peinture éphémère.
Qui va rester avec le temps, j'espère.
Qui va rester avec le temps, voilà.
Voilà. Donc, le papier m'aide beaucoup à mettre les couleurs et les formes en une fois.
Oui, oui. Oui, on sent, j'allais dire, au rythme de votre peinture. Mm. Parce qu'il y a un rythme dans cette peinture, on le sent bien. Frédéric acquiesce, mais je vais lui poser des questions après. Mais on sent qu'il y a véritablement un rythme. Alors, je ne savais pas cette particularité du papier. C'est extrêmement intéressant, mmh, évidemment. Trouver de l'énergie dans la fibre qui constitue le papier, ça, c'est quelque chose... vous exposez ?
Oui. Donc, il y a plusieurs expositions qui m'ont marqué primordialement allemand.
Ah, ouais.
Donc, il y a 2 ans, à Paris, à la Galerie Royale de la Madeleine, j'ai exposé, mmh, sous le titre « Korean Color Symphony ».
Ma, oui, racine. Symphonie de couleurs.
Oui, voilà, avec l'aide de Hanji. là, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens qui sont venus me soutenir, de partager les émotions, notamment monsieur Jean Anguera, qui est ancien président de l'Académie de Beaux-Arts, mm-hmm, avec monsieur Didier Benheim, qui est membre de l'Académie aussi, qui m'ont encouragée, qui ont vraiment aimé. Beaucoup, ils avaient beaucoup, comment dire, compris mon travail.
Oui, c'est ça.
Oui, voilà. Donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi l'année dernière en Corée, à Séoul, de août à décembre, pendant 4 mois, j'ai exposé. Donc, j'ai pu recevoir mes parents. et puis qui m'a beaucoup marquée aussi parce que mon père, en étant un petit peu difficile de déplacer, il est venu quand même. Il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup émue. C'est-à-dire, il a dit « ça m'a beaucoup guéri,
oh,
ces couleurs, ces œuvres que j'entends avec la musique ». Justement, parce que la musique, on va au concert souvent pour être réconforté, mmh. Et j'étais très heureuse,
oui,
d'entendre
c'est
ça.
C'est ce que nous disons avec Eric dans toutes nos émissions. J'ai dit à chaque fois au public, allez au concert, ne vous contentez pas. Le disque, c'est très bien pour se remémorer des émotions, pour découvrir des œuvres, etc. Mais allez au concert, car on n'imagine pas, pour peu qu'on ne connaisse pas trop, on n'imagine pas la qualité vibratoire, mmh, d'un concert.
Mmh.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que malgré l'écran d'Internet, quand on voit vos œuvres, que malheureusement je n'ai pas encore eu l'occasion de voir en direct, mmh, mais on ressent cette énergie, mmh, à travers la simple vision, mmh, même à travers un écran de vos toiles.
Mmh.
Voilà. Et croyez-moi, j'ai vraiment ressenti ça parce que moi je ne suis pas du tout un aficionados, comme on dit, de la peinture contemporaine.
Mmh.
C'est quelque chose qui souvent me hérisse parce que je la trouve trop intellectuelle, je la trouve trop surfaite, enfin, etc. Et là, on retrouve, en écoutant les œuvres, parce que vous les sous-titrez, enfin, on sait quelle œuvre, mmh, a inspiré cette couleur, et là, on retrouve exactement enfin, y a une véritable communion avec l'auditeur, même si l'œuvre n'est pas jouée au moment où on regarde la toile, entre l'auditeur et le spectateur, en quelque sorte. Il y a une vraie intimité, en quelque sorte, on redécouvre. Alors, je vois que Frédéric, à qui je n'ai pas, pardon, encore donné la parole, acquiesce. Bon, c'est pas trop difficile, Frédéric, d'avoir épousé une artiste.
Ah non, c'est une joie originale, quotidienne.
J'imagine. C'est une mauvaise question, pardon.
Moi, ce qui me fascine dans les toiles de Njou, c'est qu'il y a cette double histoire. C'est-à-dire que l'histoire du Hanji, ça m'a beaucoup touché également, parce que lorsque l'on voit comment c'est fabriqué, l'énergie, le temps qu'il faut pour fabriquer du Hanji, parce que c'est de l'écorce de mûrier qui est passée d'une quantité de fois dans des tamis pour que les fibres s'entrelacent. Et c'est pour ça que c'est le papier le plus résistant au monde. Il y a des livres de Bouddha qui datent de plus de 1000 ans qui ont été faits avec ce papier. Et il y a d'autres papiers asiatiques qui sont, notamment en Chine et au Japon, qui sont aussi un peu faits de la même manière, mais ils n'ont pas le même nombre de passes sur le tamis, ce qui fait qu'il y en a deux fois moins. Donc ils sont moins résistants. Et celui-là, il a déjà une histoire, mais il y a une double histoire, c'est que Njou, lorsqu'elle ressent cette œuvre, on parlait tout à l'heure de la valse de Ravel, les conditions dans lesquelles Ravel a écrit cette valse, c'est aussi une histoire extraordinaire. C'est-à-dire qu'il avait une commande pour faire l'apogée de toutes les valses. Ça devait être l'apogée des valses de Vienne.
C'est ça, c'est-à-dire exactement.
Une sorte d'explosion de joie. Et il a été tellement marqué, comme on le sait, par la Première Guerre mondiale, oui. Par tous ses amis qui revenaient, qui ne revenaient pas, qui revenaient souvent même amputés.
Amputés, voilà.
On se souvient du concerto pour la main gauche. Donc, il a fait quand même cette commande. Il a quand même... écrit cette valse, mais avec cette espèce de sentiment de culpabilité pendant que certains s'amusent, d'autres souffrent, d'autres se font amputer, d'autres meurent. Et il y a cette histoire qui est extrêmement troublante et je la ressens lorsque je vois le tableau de Njou qui est justement dans les violets, un peu de rouge, il y a quelque chose qui danse et en même temps qui danse un peu.
Il y a une profondeur qu'on...
Exactement.
Et alors qu'on ressent effectivement, alors en plus on connaît l'histoire de la création de la valse de Ravel. Il faut savoir que c'était un ballet à l'origine, qui a été refusé d'ailleurs.
Oui.
Parce que je ne me souviens plus quel est...
Je crois que c'était... alors, je n'ai pas envie de dire des bêtises, mais je crois que c'était Diaghilev qui avait...
Diaghilev qui avait fait
commandé
cette commande.
Et il a dit à Ravel, c'est génial, mais ce n'est pas un ballet.
Voilà, c'est beaucoup
c'est
plus...
C'est un tableau.
C'est un tableau musical, voilà, exactement. Mais c'est tout à fait ça. Et alors, ce tableau musical, ben voilà, il est exprimé maintenant à travers la toile de Njou. Mais c'est d'une très, très grande profondeur, hein, je trouve. Alors... ce que j'ai omis de dire, c'est que on parle beaucoup de peinture parce que moi, la relation musique-peinture me fascine absolument, surtout dans cette relation très particulière parce que la synesthétique, c'est au-delà de la simple, je dirais, du simple fait d'illustrer une œuvre. C'est vraiment une communion, c'est vraiment quelque chose de qui est une osmose entre l'artiste qui va jouer cette œuvre et puis l'artiste qui va la peindre. Voilà, vous pourriez être deux personnages différents, je ne vous accuse pas d'être...
Jekyll and Hyde.
Mais on imagine, si vous voulez, un peintre qui entendrait cette œuvre et qui l'illustrerait en quelque sorte, mais là c'est beaucoup plus profond que ça. En plus, vous êtes l'interprète.
Oui, exactement.
Voilà. Et c'est là où il y a une relation qui est, qui est magique. Enfin, il y a quelque chose c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer intellectuellement en quelque sorte. Il y a une véritable créativité. Vous recréez en quelque sorte. Quel dommage que Ravel ne soit pas là pour juger, enfin pour apprécier ses œuvres, enfin etc. Alors, j'ai oublié de dire aux auditeurs, ils l'ont deviné dans nos propos, mais vous êtes violoncelliste.
Oui.
Vous avez fait déjà un très beau parcours de violoncelle. Et pour les œuvres que j'ai entendues, là aussi malheureusement par le disque, un jour je viendrai vous entendre en direct pour ressentir cette vibration dont je vous parlais tout à l'heure. Mais les enregistrements que vous avez faits, parfois avec Frédéric d'ailleurs, on sent cette, je dirais, cette recherche de la vraie sonorité. Pas simplement une sonorité esthétique, mais quelque chose qui soit véritablement, j'utilisais le terme de, tout à l'heure, de vibratoire. Alors pardon, on peut mettre beaucoup de choses derrière ça. Mais il y a, vraiment, dans votre timbre musical, il y, a quelque chose d'extrêmement profond, à la fois avec la variété du vibrato, enfin, etc. Ça, c'est tout à fait intéressant. Mmh. Et alors, j'écoutais cette œuvre avec ma femme, qui est violoncelliste aussi, donc qui a fait une carrière de violoncelle. Mmh. Et alors, moi, je me suis toujours interrogé, bien que violoniste moi-même, mais je me suis toujours interrogé sur cette... sur, j'allais dire, cette, cette recherche, cet appétit, cette... enfin, ma femme travaillait son violoncelle toute la journée. Elle n'était jamais satisfaite de la sonorité, du son, de l'intensité du son, de l'épaisseur. Enfin, moi, ça me fatigue un peu, mais... mais c'était, c'était
toi,
extraordinaire.
Vous,
mais
oui, violoniste,
ça, et ça me rappelait cette anecdote de Pablo Casals, dont, c'est la carrière, enfin, etc. Bon, il était adulé dans le monde entier, enfin, etc. Et un jour, il va dans une petite ville de province pour donner un concert, parce qu'il n'hésitait pas à aller à porter la musique, y compris dans les endroits les plus incroyables. Et donc, après la répétition, le maire de la ville, qui l'avait invité, qui avait payé très cher, évidemment, pour avoir le grand maître, hein, etc., lui dit: cher maître, naturellement, le conseil municipal est rassemblé pour vous accueillir, donc il y a un cocktail, enfin, etc., avant le concert. Et il lui dit: non, non, moi, vous savez, non, non, il faut que j'aille travailler. Hein. Alors le maire lui dit: attendez, travailler, ce que j'ai entendu est très bien, hein, vous savez, il n'y a pas besoin de... n'en faites pas davantage, c'était parfait, à la répétition, c'était très bien. Non, 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 il faut que j'aille travailler. Alors donc, il prend un taxi, il rentre à son hôtel, au dépit total du maire, avec tout son conseil municipal et les petits fours qui étaient là pour le recevoir. Bon. Et alors... Il le suit en disant: bah, il rigole, il va aller faire des courses, enfin, il va aller acheter un souvenir. Quelque chose comme ça. Donc, il le suit à son hôtel, et effectivement, à travers la porte, il entend Casals qui travaille son violoncelle et qui a travaillé pendant 45 minutes la première note du concerto de Dvorak. La première note, l'attaque, enfin, la première prise de son.
Oui.
Bah, ça, c'était, voilà, c'est le fait des. Certainement des grands maîtres qui ne sont jamais satisfaits. Vous n'êtes jamais satisfaite.
J'ai une très belle anecdote concernant le violon. C'était au concours de la reine Elisabeth. Et il y avait Kogan qui était là.
Oui.
Qui
Léonide.
Léonide Kogan, que l'on connaît bien et que l'on admire énormément. Qui était là et qui devait, pendant une semaine, ils sont mis en loge, ils doivent travailler un concerto contemporain qu'ils jouent au bout d'une semaine avec l'orchestre. Donc, ils sont tous là en train d'essayer d'apprendre le concerto contemporain. Et à travers les parois des studios, ils ont même interdiction de communiquer avec l'extérieur.
Bien sûr.
Voilà,
c'est
loges,
une mise en loge.
Voilà. Une mise en loge du concours de la reine Elisabeth. Et à travers les murs, d'autres concurrents entendent « sol, la, si, la, ré ». Sol, la, si, la, ré, sol, la, si, la, ré, sol, la, si, la, ré. Et sans arrêt, les cinq premières notes du concerto de Paganini numéro 1.
Que vous avez interprété.
Oui, assez souvent, que j'aime beaucoup du reste. Mais donc, Léonide Kogan est un des grands représentants de ce concerto numéro 1 de Paganini. Et un des concurrents va le voir et dit: tu sais, on a quand même un concerto contemporain à travailler. Il dit: oh non, ça va. Mais sol, la, si, la, ré, je ne suis pas encore sûr.
Voilà, c'est ça.
Les cinq premières notes, je ne suis pas tout à fait.
C'est tout à fait ça. Cette recherche, c'est au-delà de la perfection d'ailleurs. Parce que la perfection, j'allais dire technique en quelque sorte, évidemment, Léonide Kogan, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Donc mais ça va au-delà, ça va vraiment la recherche de la prise de son. Vous l'expliquez d'ailleurs dans un des textes de votre site, lorsque vous exprimez que vous avez effectivement une recherche permanente de cette sonorité. Alors comment est-ce... donnez-moi le secret. Comment est-ce qu'on obtient...
Je dis souvent aux élèves, à mes élèves, quand on veut, on arrive, on y arrive. Quand on cherche, on y arrive. C'est quand on ne cherche pas, en fait, quand on cherche ailleurs, peut-être.
Mais... Oui, mais oui. C'est formidable, c'est effectivement très pédagogique. sauf que chacun a son niveau de perfection, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez évidemment le vôtre, mon épouse avait le sien, vos élèves certainement ont le leur, et c'est ça qui est difficile, parce que imiter... Frédéric, vous donnez des cours aussi, oui, je suppose. Bon, oui. On a tous eu des élèves, quoi. Et par conséquent, ce qui est très difficile, c'est ça. C'est arriver soi-même à obtenir ce niveau qui est inatteignable, bien sûr, on a bien compris. On est toujours en recherche. Mais c'est de le transmettre à un élève en fonction de la personnalité de l'élève. C'est ça, la vraie transmission.
Oui.
Alors là, pour le coup, on n'a pas la recette.
C'est ça, ce qui est dit. Pardon, la particularité Eric. D'un instrument à cordes, c'est cette osmose qu'il y a entre l'instrument, l'archer, le bras et l'être qui interprète. Et c'est cette particularité qu'on a lorsqu'on entend un quatuor, des instruments à cordes. Nous sommes au ciel, nous sommes dans la magie. Lorsqu'intervient un piano... C'est déjà tout à fait différent. C'est pourtant un instrument à cordes, à cordes frappées. On va dire à cordes frappées. J'insiste bien. C'est déjà tout à fait autre chose. Voyez-vous.
Mais oui, non. Donc,
cette pureté du son.
Voilà. Non, mais de toute façon, enfin, je ne sais pas si on entendra un. Il faut qu'on écoute un peu de musique.
Oui,
dans ce
qu'on
livre.
Écoute. Bah,
il y a effectivement un quatuor. Wenju joue très régulièrement, c'est son quatuor, c'est elle qui l'a créé,
oui,
il s'appelle le quatuor Gaïa.
Gaïa, c'est la Terre.
Mm-hmm.
Bon, alors c'est très amusant parce qu'ici en France, avec les mouvements plus ou moins écologistes, Gaïa, on est parfois un peu réticents.
Nous
parce qu'ils
ça.
Se sont emparés de cette très belle notion de Gaïa, d'ailleurs. Mm-hmm. Là, je ne conteste pas la notion même de la Terre-mère, enfin, etc. Mais ça a été repris, bon, enfin, on va éluder ce genre de questions. Mais alors, pourquoi Gaïa ?
Parce que c'est la fondamentale de tout. Pourquoi j'ai choisi ce nom ?
Voilà, c'est ça.
Mmh. Parce que justement, c'est tout ce qui est... C'est la base de, qu'on peut créer. Et c'est... Je vous raconterai un petit peu
les circonstances de la naissance.
Et puis, vous allez sourire un petit peu. Parce qu'on était, au début, on était 4 filles, déesses de la Terre. Ça s'appelle Gaïa. Donc,
Bien sûr, on
a choisi ce nom. Mais maintenant, on a... Maintenant, le premier violon est Fred. Frédéric, oui. Mon mari. Donc, je ne sais pas si je pourrais dire...
Je me vois mal en déesse de la Terre.
Voilà.
Non, pas encore.
Ça vient.
Musicalement, on peut... Voilà, il n'y a pas de sexe à la déesse de la Terre, si on peut dire. Mais c'est vrai que... enfin bref, le nom est très beau, enfin, etc. Mais c'est peut-être plus... C'est peut-être plus vrai. Moi, je suis toujours fasciné par la capacité d'interprétation des œuvres musicales occidentales par les Asiatiques.
Mmh.
Voilà.
Oui.
Vous-même, coréenne. Les Chinois, maintenant, ils ont mis du temps, mais maintenant, c'est bouleversant.
Que ce soit orchestre à cordes ou piano, même, enfin, d'une façon générale.
J'allais dire mon ami, mais je ne me souviens plus de son nom, je suis désolé. Je sais plus son prénom, Ribisky, qui est professeur à l'école normale et qui a créé le concours de piano, le concours international de Shanghai. Voilà. La première année, quand ils ont créé ce concours, ils ont eu beaucoup de mal, ils ont recruté, ils ont été voir les professeurs de piano des plus grands conservatoires chinois. Ils avaient beaucoup de mal à avoir des candidats. Et ils ont fait, évidemment, c'est un concours international, donc il y a eu un écrémage, j'allais dire, absolument considérable. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire des concours toute l'année, tous les jours de l'année, dans toutes les villes chinoises. il doit y avoir 40 millions de pianistes en Chine qui sont tous d'un niveau
professionnel,
époustouflant, d'un niveau technique en tout cas, époustouflant. Et la grande difficulté de ces jurys, c'est de départager les candidats pour pouvoir effectivement avoir les meilleurs des meilleurs pour pouvoir aller en finale de ces... Enfin, c'est absolument inouï. Mmh. Il y a encore, il y a moins d'un siècle, il y a même 50 ans, la musique occidentale était strictement interdite dans ces pays. Mmh. Alors, je ne sais pas comment avez-vous fait pour vous adapter à ça. Alors, évidemment, il y a le miracle de la musique.
Mmh, voilà. Exactement. La musique, c'est mon premier langage. J'ai commencé le violoncelle quand notre famille, avec ma famille, on s'est installé au Canada, à Toronto, quand j'étais petite. J'ai mm-hmm. passé une petite partie de mon enfance là-bas.
Au Canada.
Au Canada, où j'ai commencé le violoncelle, la danse classique, la peinture, le patinage, etc. Et là, sans parler un mot d'anglais, j'ai appris le violoncelle avec mon professeur canadienne. C'était une expérience pour moi très marquante parce que je pouvais communiquer avec voilà. elle en musique, avec la musique.
Et pas avec la langue.
Ah, non.
Voilà,
non,
c'est ça.
J'ai beau essayer de comprendre, mais pendant quelques mois, je comprenais pas. Mais comme ça, j'ai appris que la musique était ce qu'on pouvait exprimer sans mots, voilà. Mmh. Et après, je suis venue en France pour avoir des masterclass avec les plus grands maîtres de la musique, du violoncelle. J'ai eu l'honneur de travailler avec Rostropovitch ou Monsieur Perini, que j'admire beaucoup. Et donc, ces trois, la rigueur coréenne, l'ouverture d'esprit nord-américaine et puis la poésie française, ça, c'est entré en moi. Donc c'est pas...
Musique, langage universel.
Voilà.
Et peinture, langage universel, parce que maintenant, vous nous redonnez en quelque sorte cette synthèse entre la musique, la poésie, les différentes cultures aussi, parce que vous aviez quand même, génétiquement au moins, une culture coréenne, donc asiatique.
Voilà, voilà. Ma racine.
Et ben voilà, exactement, les racines, et ça compte énormément. Alors écoutez, maintenant on peut écouter de la musique, je vous propose un extrait musical. Alors qu'avez-vous préparé? Parce que c'est vous qui avez tout fait, donc je suis un auditeur...
Tchaïkovski.
Voilà, Tchaïkovski.
Oui.
Voilà. Donc,
annoncé d'autres...
Alors, un extrait de...
Tchaïkovski, le quatuor.
Magnifique. Quatuor à cordes. Le quatuor Gaïa. Première mouture avec Frédéric ou sans Frédéric?
Sans moi.
Sans Frédéric. Très bien. Nous écoutons un extrait du quatuor de Tchaïkovski. Merci.
Thank you.
Chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la musique et de la culture dirigé par Didier Rochard, qui reçoit aujourd'hui Madame Eun-Yu Park Moreau, qui est violoncelliste à l'Orchestre Philharmonique de Séoul et artiste peintre également. Et puis Monsieur Frédéric Moreau, qui est violoniste et le fondateur de l'Orchestre des Violons de France, chers auditeurs, que vous pouvez entendre régulièrement en l'église de la Madeleine, dans les cadres des concerts, musique et patrimoine. Vous êtes fréquemment, quand vous êtes en France, vous êtes le soliste.
J'ai la joie de retrouver mes collègues et amis.
Voilà, et avec la soprane Cécile Bénard.
Exactement.
Alors Frédéric, ce qui est très intéressant, ce que les auditeurs n'ont pas entendu, parce que c'était pendant la plage musicale, quel dommage pour les pauvres, mais ce qui était très intéressant, c'est les propos que nous échangeions sur cette capacité, les propos précédents d'ailleurs, sur cette capacité extraordinaire d'adaptation, en quelque sorte, le mot est très faible, mais d'adaptation des artistes de culture asiatique, disons en règle générale, à notre culture occidentale, et la façon dont ils intègrent la sensibilité occidentale, et particulièrement, ça c'est peut-être une opinion très personnelle, mais particulièrement la sensibilité de la musique française. On a aujourd'hui des interprètes d'origine asiatique qui nous régalent avec des Debussy, avec des Ravel, alors pour les œuvres un peu de musique de chambre, mais des choses tout à fait où ils le sont, parfois plus que nous, parce que nous baignons dedans en quelque sorte. Et donc ils ont peut-être davantage analysé les caractéristiques de la musique française, et donc ils sont capables de les restituer d'une façon absolument extraordinaire, et du coup on se retrouve complètement dans ces interprétations.
Tout à fait.
Alors vous qui êtes à cheval entre, si j'ose m'exprimer ainsi, entre la culture asiatique coréenne en particulier, et la culture française, une réaction?
C'est vrai que nous avons ça, ces magnifiques tableaux, ces magnifiques morceaux, tellement sous le nez que finalement on ne les voit presque plus. On a l'impression que notre culture, on la galvaude un petit peu, qu'elle n'a plus assez sa place dans notre univers, et que finalement, ce n'est pas tellement la peine. Les choses matérielles sont bien plus importantes. Alors qu'ailleurs, ils ont bien compris que cette effervescence, cette apogée culturelle qui a fait, on va dire, notre force pendant plusieurs siècles, est vraiment un trésor précieux, et je pense que il le préserve. Moi, j'ai eu ces sentiments-là en allant là-bas, en me disant, c'est vrai que notre culture, qui est si abondante et si complexe, si incroyable, heureusement, elle est préservée ailleurs.
Alors, ça me rappelle une anecdote. Damien Top, qui est un ténor qu'on entend trop peu maintenant d'ailleurs, parce qu'il organise les festivals Albert Roussel. Voilà, donc je pense qu'il est très occupé avec ses traits. Et alors, il se trouve que Damien Top, un jour, faisait dans les îles françaises du Pacifique, je crois qu'il faisait une masterclass, ou peut-être assistait-il à une masterclass. Et puisqu'il était à côté d'Hawaï, il se dit, oh bah tiens, je vais aller faire un petit tour là-bas, etc. Il arrive à Hawaï, il prend contact avec peut-être l'Alliance française ou quelque chose comme ça. Et alors les gens lui disent, mais qui êtes-vous? Enfin, Damien Top, je suis ténor, mais vous êtes musicien. Ah mais vous savez que nous avons un festival de musique française à Hawaï. Bon, et je les ai reçus ici même, d'ailleurs. Après coup, naturellement, je les ai invités. Ils sont venus. Ils ont fait le voyage. Et ils sont venus pour parler du festival de musique française à
Radio
Courtoisie. Voilà. Et alors, ça fait entendre ça. Et pour la petite histoire, Damien Top, donc, alors on propose à Damien Top, on lui dit, mais puisque vous êtes là, vous allez donner un concert de musique française. Alors, évidemment, il dit, oui, mais enfin, je n'ai pas mon pianiste. Ah, mais qu'à cela ne tienne, des pianistes qui peuvent jouer la musique française, on va vous en trouver. Bien. Oui, mais je n'ai pas mes partitions. Mais qu'à cela ne tienne, à la bibliothèque d'Hawaï, il y a toutes les partitions d'Albert Roussel, y compris des choses qu'on ne connaît pas en Europe. y compris des œuvres qu'Albert Roussel, qui était navigateur, qui était officier de marine, a laissé sans doute dans ses passages, dans ses villes, enfin, etc. Donc, ils avaient des manuscrits qu'on n'a jamais entendus en France. Bien. Et à sa grande surprise, alors c'est à Damien Top qui le racontait ici à cette antenne, à sa grande surprise, quand il dit « Oui, mais j'ai pas mon pianiste. » »« Ah, mais rassurez-vous. » Et les pianistes qu'on lui a trouvés pour accompagner ses mélodies, ils jouaient par cœur. Vous imaginez, on est à Hawaï.
Mais dans les les masterclass en France, qui ont lieu en France, il y a beaucoup d'asiatiques, beaucoup,
bien sûr.
Et surtout de jeunes asiatiques, d'enfants prodiges, absolument extraordinaires, avec une mémoire merveilleuse.
Frédéric nous disait un jeune violoniste là qui assimilait des...
Oh, c'était pas le seul, mais c'était la première fois que j'enseignais à Séoul. Et effectivement, il m'a beaucoup impressionné. Et quand je suis rentré en France, j'ai demandé à mes collègues qui enseignaient, j'ai dit, mais combien de fois tu répètes quelque chose à un élève? Et en général, ils me disaient, une dizaine d'années. Et moi, j'ai dit, bah, écoute, j'ai eu un petit élève qui me faisait Il palpitit de Paganini, la première d'Isaïe et le quatrième caprice, et je ne lui ai jamais répété une seule fois quoi que ce soit.
Ouais, oui.
Il assimilait immédiatement. Notre discussion à propos de la musique française m'a fait penser à quelque chose à propos d'Anjou. Anjou écrit également quelques textes sur son univers, et on parlait de Debussy. Et je pense que ce serait le moment d'écouter un petit ressenti de l'univers d'Anjou par rapport à Debussy.
Magnifique.
Je vais vous lire.
Mais oui.
Pour comprendre Debussy, je ne suis pas allée dans une bibliothèque. Je suis allée au musée d'Orsay. C'était instinctif. Pour comprendre cette musique qui refuse les lignes droites, il fallait d'abord comprendre la lumière. Car Debussy n'écrit pas avec des notes, il peint avec des reflets. Quand je joue clair de lune, je pense toujours à une toile de Monet. Les contours se dissolvent, la précision devient une trahison. En tant que violoncelliste, cela veut dire que le vibrato doit être translucide, presque hésitant. Et en tant que peintre, cela veut dire que les couleurs ne doivent jamais être pures, mais toujours respirer entre deux tons. Debussy m'a appris que l'imprécision peut être une forme de vérité.
Magnifique. C'est cette compréhension extraordinaire de la musique de Debussy à travers la peinture. Mais c'est tout à fait ça, quoi. C'est impressionnant, hein? Bravo,
oui.
Bravo.
En quelques mots, et c'est un univers. Il y a un texte de toi sur Schubert aussi que j'aime beaucoup, parce que tu parles de ton adolescence finalement, où tu étais dans le bus et avec des écouteurs. Et que... Tu veux nous le lire?
On le retrouve à l'instant, formidable. Merci Frédéric.
Donc je lis ça par cœur, comme tous les Asiatiques. Pendant mes années à Paris, j'ai souvent pris le métro et le bus, violoncelle sur le dos. Il y a eu un jour dans le bus 95 en direction de Montmartre où Schubert jouait dans mes écouteurs. Je regarde par la fenêtre et voilà que les nuages dansent exactement au rythme de la musique. Un moment de synchronisation cosmique, la lenteur des mouvements célestes, la pesanteur des accords schubertiens. Schubert, ce doux mélancolique, me fait toujours penser à quelqu'un qui écrit une lettre d'amour mais ne l'envoie jamais. Il est honnête, mais il s'excuse d'avance. Il sourit, mais avec les yeux tristes. Ce jour-là, dans ce bus parisien, j'ai su que la couleur grise des nuages était exactement celle de son âme.
C'est un ressenti tout à fait extraordinaire. Mais si, parce que... Enfin, moi, je suis franco-français, c'est le cas de le dire. Et par conséquent, je suis fasciné par cette capacité de compréhension, en quelque sorte, à la fois de la peinture française, de la musique française, de cette... C'est ça qui... Frédéric avait parfaitement raison tout à l'heure en disant que c'est ce qui ressort, quand on va à l'étranger, c'est ce qui ressort de la France, finalement. C'est-à-dire que les étrangers, plus que nous, ont beaucoup mieux compris... la qualité, il faut le dire, hein, c'est pas chauviniste que dire, la qualité de la culture, de la civilisation que la France a su développer. Et c'est ça qu'on étouffe aujourd'hui complètement, surtout en France d'ailleurs.
On a même entendu quelqu'un qui disait il n'y a pas de culture française.
Oui. Enfin, lui-même
étant totalement illustre. Tout est possible dans la bouche de ce genre de personnage. Mais c'est dramatique parce que, je radote un petit peu, mais moi je l'ai tellement ressenti au Vietnam, comme je le disais tout à l'heure, que cette capacité de ces gens qui sont d'une civilisation millénaire aussi, ils sortent pas de n'importe où, au contraire, ils ont peut-être une civilisation plus ancienne encore que la nôtre. N'oublions pas que il y a beaucoup de ces pays qui étaient entre guillemets christianisés, qui est quand même pour l'Europe une des grandes bases de la civilisation européenne, pour ne pas dire française. Ils étaient très christianisés bien avant nous.
Vous savez que la Corée est la dominance protestante.
Alors, aujourd'hui, la Corée... Mais elle l'a toujours été, d'ailleurs, je crois, non? Peut-être, je ne sais pas.
Ça fait assez longtemps, quand même.
Mais à dominante protestante aujourd'hui, alors que c'est un pays asiatique, on pourrait penser plutôt au bouddhisme,
shintoïste, comme le Japon. Mais oui, effectivement. Alors, il y a pas mal de ramifications. Ça peut être un peu évangélique, comme aux États-Unis. Mais quand même, il y a une base un peu commune.
Oui, une base biblique.
Exactement.
On va dire ça comme ça. Voilà.
Peut-être avant d'écouter un morceau tout à l'heure, Frédéric, on a parlé bien sûr de Danube avec un grand, grand plaisir et des capacités que vous avez d'expression à travers les mots. Mais Frédéric, si vous savez nous transporter par les sons, vous savez également nous émouvoir et nous enseigner par les mots. Et notamment, vous venez d'écrire un ouvrage qui sort en ce moment, qui s'intitule « Mensonges monétaires ». Vous êtes donc économiste, mais un économiste financier sur l'histoire de la finance, c'est extraordinaire. Pouvez-vous nous dire quelques mots de cet ouvrage qui sort ?
Alors effectivement, j'ai toujours été fasciné par le monde financier, que depuis assez jeune, en fait, vers mes 16-17 ans. Et récemment, j'ai eu envie de creuser un peu plus, parce que les fondations ne me paraissaient pas très claires. Et j'ai beaucoup lu, justement, sur les fondations de la monnaie et de la monnaie-dette. Parce qu'on ne le sait pas souvent bien, mais la monnaie que l'on utilise est née à partir d'une dette et qui nous impose une croissance infinie. Et ce livre-là, ce n'est pas pour dire une vérité, c'est juste pour pédagogique, pour... on va dire, apporter une lumière sur des rouages qui sont souvent mis dans l'obscurité. C'est un autre éclairage de ce que l'on vit. Ce n'est pas forcément le seul, mais c'est un éclairage, je pense, essentiel parce qu'il est souvent mis dans l'ombre et les fondations qu'il nous donne, que le système monétaire nous donne, tend à aller vers un effondrement total. C'est-à-dire que le postulat, si je veux dire, le pitch du livre, mais qui passe par beaucoup de différents points de vue, c'est que la monnaie-dette porte dans son ADN la guerre, le génocide et l'esclavage. Et peut-être mais même un assemblage des trois selon les cas.
C'est le sous-titre du livre. L'esclavage. Né pour être esclave.
Exactement. Voilà. C'est-à-dire que si on n'y prend pas garde, mais c'est très logique finalement. Déjà à l'époque, Platon et Aristote savaient très bien que l'usure portait l'usure portait en elle-même la destruction.
La destruction, oui.
Déjà à l'époque de la Mésopotamie, on savait très bien que la dette, puisque la dette précédait la monnaie, en fait, puisque c'était du don et du contre-don, mais après il y avait un système de dette. Voilà, on savait très bien que ceci était un peu, je dirais pas le diable, mais, mais portait en tout cas...
Les religions, enfin certaines religions interdisaient l'usure d'ailleurs.
Tout à fait,
bien sûr.
Tout à fait, exactement. Mais disons qu'en tout cas portait le gène de la destruction et on a poussé à partir de la Banque d'Angleterre, surtout en 1694, le fait qu'on pouvait s'endetter à l'infini et donc demander au peuple une croissance infinie. Alors il y a quelque chose qui moi me met très mal à l'aise, par exemple lorsqu'on étudie un peu ça, c'est que Guillaume III faisait la guerre à Louis XIV. Alors, effectivement, on est pour ou contre, ça c'est quelque chose, la politique expansionniste de Louis XIV peut être tout à fait discutable et peut-être il fallait un contre-pouvoir. Mais en tout cas, il a appelé des financiers qui ont créé cette Banque d'Angleterre pour pouvoir endetter le peuple et non plus un simple roi. C'est-à-dire que la fiscalité allait permettre un endettement massif pour faire de la guerre. Alors, si on raisonne un peu d'une autre manière, c'est-à-dire que les gens s'endettaient de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils payaient de plus en plus d'impôts pour avoir la chance d'aller se faire tuer au combat.
Oui. C'est sous d'autres formes, mais les formes évoluent, les formes financières évoluent, c'est tout l'enjeu de Black Masters et des subprimes.
Oui. Mais les subprimes n'ont pas arrêté, ils ont juste changé.
Ils ont changé la donne, ils ont changé d'orientation,
oui.
le même défaut de distribution, si on peut appeler ça comme ça.
Il y a un marché de shadow banking maintenant qui est beaucoup plus important. Effectivement, ils ont mis des règles prudentielles qui sont tout à fait justifiables. Mais le shadow banking a permis de faire la même chose d'une manière encore plus sournoise. Voilà. Et en fait, cette fondation pour moi de la monnaie dette, porte, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait mis sur des fondations, des immeubles extraordinairement élevés sur du sable.
Oui.
C'est-à-dire que maintenant, dès l'instant qu'il se passe la moindre chose, l'édifice est tellement élevé qu'il menace de s'effondrer.
Voilà. Et le pire, c'est que ça n'est pas un épiphénomène supporté ou supportable, c'est voulu. C'est tout à fait organisé.
Alors, c'est vrai que...
Mais ça, c'est du complotisme aujourd'hui.
Non, alors, le complotisme, c'est un mot que j'adore, puisqu'il permet de mettre tout le monde dans le noir et de ne plus avoir aucune nuance.
Entre les comploteurs et les complotistes.
Donc, tout le monde dans le même sac.
Ça, c'est, voilà, c'est, on est avec les platistes et avec les... Voilà.
Mot créé par la CIA, quand même.
c'est un mot extraordinaire qui permet de ne faire aucune nuance. Mais non, j'aime bien l'image de... Bon, j'étais plongeur, effectivement. Mais j'aime bien l'image de l'écosystème marin où effectivement chacun est interdépendant.
Oui.
Vous ne pouvez pas avoir un requin s'il n'y a pas du plancton parce que il va y avoir le plancton va nourrir un poisson un peu plus grand, etc. Mais chacun vit sa vie indépendamment. Et effectivement, les requins n'en ont rien à faire des autres écosystèmes qui sont là, puisque ce n'est pas leur préoccupation. Mais ils sont interdépendants, parce que si l'écosystème d'en dessous s'effondre, c'est toute la chaîne alimentaire qui s'effondre. Et on est exactement dans ce même moment, je trouve.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et personne ne lâche. Parce que si on lâche, on écroule tout le système.
Voilà. Exactement.
S'il y en a un qui lâche, tout s'écroule.
Oui.
C'est d'ailleurs la grande hantise de nos hommes politiques aujourd'hui.
En tous les cas, je voulais juste finir en disant que c'est extrêmement sourcé. Donc...
Oui, extrêmement. Mensonge. Pour l'instant, pour l'instant que vous auto-éditez, c'est
fait.
Cela, ouais. Et qui extrêmement intéressant. Donc, chers auditeurs, Mensonge monétaire par Frédéric Moreau, qui est à la fois violoniste, fondateur de l'Orchestre des violons de France, et également économiste, on peut le dire ainsi. Et votre livre est très clair. Votre livre, j'ai commencé à le lire, extrêmement pédagogique.
Il y aura une autre émission, d'ailleurs, dans cette,
nous
sur cette antenne.
Nous prévoirons une autre émission.
Pour présenter... votre l'économiste livre. Frédéric Moreau, après avoir
plaisir.
Présenté le violoniste. Alors, le temps de notre émission va
s'achever,
malheureusement
oui.
s'achève. On a entendu peu de musique. Je ne peux, chers auditeurs, que vous renvoyer malheureusement aux musiques en boîte, mais elles sont magnifiquement enregistrées. Vous retrouverez en tapant simplement Violon de France @gmail.com. Vous avez, c'est le site des Violons de France.
Oui, enfin, mais... ça c'est mon email.
D'accord.
Bon, très bien. Merci de m'envoyer vos dons.
Tout est révélé. C'est noté.
Donc, c'est violonsdefrance.fr et il y a le site d'Unjou, c'est unjoupark.
Park.
Oui. Park.art.
A-R-T.
A-R-T.
Et là, vous avez, chers auditeurs, la joie de pouvoir. Entendre naturellement Enjou dans son quatuor Gaïa et puis plusieurs, les Villa Lobos sont magnifiques avec guitare, c'est superbe, superbement enregistré à Séoul d'ailleurs, ça je vous les recommande, et puis vous verrez les toiles représentées voilà, de Enjou. Et puis j'aurai hors antenne quelques questions à vous poser. Celle-là, je vous les réserve. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission.
Merci, Enjou. Merci, Frédéric, de votre présence. Merci à Claudia.
Merci, Eric. Tout le monde se remercie.
Didier, voilà.
C'est un syndicat d'admiration mutuelle, c'est le principal.
Nous sommes tout à fait dans la culture coréenne. Voilà. Que nous admirons. Que nous admirons.
Merci infiniment, mais voilà. Et on vous suivra parce qu'il y a encore beaucoup de choses que vous devez nous révéler en tant qu'artiste.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Après ce syndicat d'admiration mutuelle, donc, nous nous retrouvons dans le studio avec Eric. Bonjour Eric.
Bonjour Didier.
Et Mélisande.
Bonjour,
bien sûr, pour
Raconte-toi
la musique.
Bonjour.
Chers auditeurs, nous sommes maintenant en direct. Alors juste une petite réflexion, Mélisande, si vous m'autorisez, avant de vous donner la parole. Parce que je suis bouleversé, figurez-vous.
Non.
Je suis bouleversé. La culture est en effervescence. Le centre Pompidou-Metz, il y a eu un vol qui a été effectué dans ce centre Pompidou-Metz. C'est le vol de la banane. Vous savez, cette banane qui est une création de l'art conceptuel, comme chacun sait.
Voilà.
Et alors, elle a été remplacée de nombreuses fois, naturellement,
oui, bien sûr,
tous les musées.
Remplacer
c'est-à-dire
les...
qu'une banane, par essence même, c'est un fruit qui finit au bout de quelques semaines, quelques jours, à pourrir. Donc, les employés du musée changent la banane.
Et une banane bien mûre, c'est bon. Hein.
Ça peut être très bon. Et là, eh bien, ça n'est pas l'employé. L'employé n'a plus que constaté le samedi 30 mai à 14h qu'un visiteur malveillant avait mangé la banane.
C'est l'heure du dessert.
C'est aussi l'heure de la sieste. C'est aussi l'heure de la sieste pour le gardien.
Ah bah oui, ça.
Toujours est-il que... Alors, on pourrait penser, puisque... C'est pas la première fois qu'on change la banane, évidemment, puisque je vous dis, elle finit par pourrir. Donc, mais là, cette fois-ci, non, le centre va déposer plainte. Alors, moi, je me réjouis beaucoup que la justice française, compte tenu de tout ce qu'on entend aujourd'hui, dans le délabrement total de cette institution, plus ou moins organisée d'ailleurs, faute de moyens, enfin, on connaît l'argumentaire, moi, je me réjouis beaucoup que la justice française est aujourd'hui les moyens d'accepter, de valider la plainte du centre Pompidou-Metz pour le vol de la banane. Alors, je rappelle quand même que cette banane, en quelques mots...
Elle était bio ou pas? Si ça se trouve, il est très déçu, ce consommateur.
N'ajoutez pas à la confusion générale. Alors, la disparition de la banane constitue évidemment l'élément périssable de l'œuvre. A été constaté donc par un agent de la surveillance. Alors cette banane scotchée au mur, signée par Maurizio Catlan, l'artiste, a été plusieurs fois exposée dans plusieurs lieux, parce qu'il n'y a pas de raison, les bananes, il suffit d'aller chez l'épicerie pour en acheter. C'est une exposition qui bouscule les codes de l'exposition. Un laboratoire où chef-d'œuvre, création inattendue au pluriel, et gestes subversifs, voilà le mot important, se succèdent. Cette présentation épuise les lieux communs du genre, bousculer les codes, gestes subversifs. Cette banane avait quand même été, je le rappelle, vendue à un musée en 2019, $120 000.
$120 000 la banane, dites voir, je n'oserais plus en prendre.
Mais c'est rien du tout, puisqu'elle a été revendue par la suite et achetée donc. Alors, est-elle vraiment achetée? On n'en sait rien. Mais toujours est-il que là, elle a multiplié par 60 son budget, puisqu'elle a été vendue 6 millions d'euros.
Mais, chers auditeurs, achetez des bananes, gardez-les, revendez-les, voyez.
En novembre 2024, voilà. Alors, la valeur de l'œuvre réside dans son certificat d'authenticité et dans le protocole qui régit sa présentation, plutôt que dans son élément périssable, rappelle le centre Georges Pompidou, Metz. Nous sommes au cœur du sujet, nous dit, dans un excellent article, nous dit Samuel Martin sur Boulevard Voltaire, dans un excellent article, ce qui compte dans l'art contemporain, ce n'est pas l'idée musicale, picturale, sculpturale, ou poétique exprimée par l'artiste grâce à des moyens techniques, c'est le concept. Voilà.
Mais bien sûr.
Ici, il est consigné dans son protocole, authentifié par devant notaire, je vous prie. L'art conceptuel est une contradiction dans les termes et n'a rien à voir avec l'art. Partant, l'art contemporain non plus, nous dit-il. Mais n'oublions pas que cet artiste n'a rien créé du tout, puisque la banane, c'est une création de notre Seigneur, je vous le rappelle. Il en a fait 3 exemplaires et 2 épreuves d'artiste, il n'y a pas de raison. Et il n'a rien sculpté, rien gravé, rien créé. Il a lancé dans le monde un produit financier, rien de plus, puisque d'un premier achat à 120 000 $, et d'un coup, la banane en vaut 6 millions. Voilà. La banane est un élément périssable, mais c'est l'art contemporain tout entier qui l'est. Fermez les guillemets. Merci Samuel Martin pour cet excellent article.
Donc, la culture est en deuil parce qu'on a mangé la banane.
Parce qu'on a mangé la banane. Voilà.
Bon, bah, écoutez, mais ça disons, c'est un fruit
passons,
de deuil.
Alors, la banane est un fruit de deuil. Dont j'avais annoncé ma biographie.
Et un véritable artiste.
1924-1970.
Avec une très belle production très récente, un disque chez Erato, un coffret qui vient de sortir de 6 disques. C'est ce coffret qui va illustrer les propos de Mélisande Chauveau à l'instant. Samson François et André Cuitens, les œuvres complètes pour piano et les œuvres pour orchestre de Maurice Ravel. C'est remarquablement remasterisé, pardonnez-moi pour le terme, et c'est tout à fait intéressant.
Il aimait tendrement et qui lui disait « Tu mens comme tu respires, ce n'est pas ta faute, tu ne peux pas dire la vérité. » Samson déconcertant répondait « Je ne mens pas, je vis mon imagination. » Laissons l'artiste aux mille vies nous conter son enfance. Ma mère s'était mariée à contre-cœur. Par ses frères, elle avait fait la connaissance de Maurice François que son père voulait l'avoir épousée. « Je ne voulais pas, explique-t-elle, et je tenais bon. » Une dernière fois, le père insista pour que cette union se fasse, et une fois de plus, elle refusa. Ce même soir, ma mère était couchée quand une femme apparut à la fenêtre de sa chambre. Grande, très belle, tout habillée de blanc, elle s'approcha du lit et la regardant intensément, lui dit « Il faut le prendre. » Maman répondit « Non. » Et la femme disparut comme elle était venue. Le lendemain soir, même apparition. Il faut le prendre. Non. Elle revint le troisième jour, cette fois, le doigt pointé sur elle, le regard impérieux. L'ordre était sans appel. Il faut le prendre. Oui. C'est ainsi qu'en l'an de grâce 1919, Rose Lutringaussert devint Madame Maurice François. Mon père était catholique, ma mère protestante, et je fus élevée dans la religion luthérienne. Ma famille du côté de mon père était d'origine lyonnaise. À une époque lointaine, mes ancêtres avaient été mêlés à un meurtre, ce qui les avait obligés à fuir la France et à se réfugier en Espagne. Puis le temps ayant passé, ils étaient revenus en France et avaient changé de nom pour celui anonyme de François. Après avoir été conducteur de travaux, puis marchand de pantoufles, mon père devint représentant des grands magasins du Louvre pour l'Allemagne du Sud-Ouest. À peine mes parents s'étaient-ils installés à Francfort que je naissais le 18 mai 1924. Je fus prénommé Samson pour la force physique et Pascal pour les qualités de l'esprit. Ma petite enfance fut celle d'un nomade. Je n'étais qu'un nourrisson lorsque mon père perdit son emploi. Il dut faire face par tous les moyens et se retrouva commis auxiliaire au Consulat de France, c'est-à-dire employé chargé des tâches subalternes et corvéable à merci. Quelques mois plus tard, nous déménageâmes à Gênes, puis à Belgrade, puis Gênes à nouveau, puis Nice, San Remo, pour enfin poser nos malles à Lyon. Je n'ai pas gardé grand souvenir de cette époque mouvementée, si ce n'est une vague impression d'écœurement pour ces multiples voyages effectués de plus dans un confort très relatif. J'avais 4 ans lorsque je commençais à étudier le piano. Enfant précoce, doué d'une mémoire exceptionnelle, je travaillais sous la houlette du professeur Licard et à 5 ans, obtenais ma première récompense. J'adorais Licard et aujourd'hui encore je garde la nostalgie de la tournée des pâtisseries où il avait coutume de m'emmener après les leçons. Dès mon plus jeune âge, j'ai été attirée par le piano, spontanément, irrésistiblement. Je me hissais sur le tabouret pour mettre mes mains sur le clavier et en tirer des sons qui me ravissaient et me fascinaient. Les touches noires me semblaient magiques. Aussi, ma première composition fut-elle écrite en do bémol majeur. Mais imaginez sept bémols à la clé. Quel délice! C'était aussi vraiment le goût de la complication. Printemps 1933, mon père était au chômage et nous nous trouvions dans un état proche du dénuement le plus complet. Finalement, papa fut embauché à la préfecture, emploi temporaire qui assurait tout juste le quotidien. Le présent était sombre, l'avenir angoissant. C'est alors qu'une dame d'œuvre, Mademoiselle Bouvet, entendit parler de nous et s'intéressa au petit prodige que j'étais. Mademoiselle Bouvet était la répétitrice des enfants du directeur général du Crédit Lyonnais, M. Poupier. Elle lui fit un récit si prenant, pour ne pas dire poignant, de notre situation, qu'elle réussit à l'émouvoir et à l'intéresser à mon talent. M. et Mme Poupier rencontrèrent mes parents et m'organisèrent un concert dans leur salon. D'emblée, je me liai d'amitié avec leurs enfants et dès lors partageai leurs vacances à la Baulée ou en Savoie. J'étais un petit garçon d'une vitalité débordante, très bagarreur, très costaud, mais malgré ma petite taille, avouerai-je qu'à l'âge adulte, je ne devais jamais dépasser le 1m58. Et je n'affectionnais rien tant que les parties d'escrime avec des épées faites d'éléments de mécano, à la grande épouvante de ma mère. Mais à peine assis au piano, toute trace d'enfant disparaissait. Je me concentrais à l'extrême et il me semblait entrer dans un autre univers. D'un coup, je devenais une sorte d'adulte miniature pour retrouver mon âge et mes jeux dès que j'abandonnais le clavier. Souhaitait quitter Lyon pour s'installer à Nice, le climat sans doute, et prétexta auprès de M. Poupier que les professeurs de piano y étaient bien meilleurs là-bas et que j'y trouverais à coup sûr le maître qui me conviendrait. En bon génie, M. Poupier recommanda papa auprès du directeur de l'agence niçoise du Crédit Lyonnais où il fut embauché et affecté au service de la correspondance. Que ce soit à Lyon, à Nice ou ailleurs, la question financière restait au cœur de nos préoccupations. Nous vivions à trois dans une pièce sordide et nous couchions parfois le ventre vide. Cela ne m'empêchait pas de composer. J'avais 9 ans et passionné d'art lyrique, je décidai d'écrire un opéra, Le Petit Chaperon Rouge, dont j'avais déjà trouvé 2 thèmes, celui du loup et celui de la galette. À Nice, Mademoiselle Gauthier, organiste du temple luzérien où ma mère et moi nous rendions régulièrement, s'intéressa à moi. Grâce à elle, je montais à la tribune. Elle m'expliquait les jeux que j'assimilais immédiatement. Insatiable de curiosité, je n'avais de cesse de jouer l'instrument. J'improvisais puis me lançais dans les inventions de Bach, ce qui laissait la titulaire pantoise. Je suivais tous les offices depuis la tribune où il était presque impossible d'obtenir que je ne me taise, surtout quand il arrivait au pasteur de se tromper d'épître. « J'ai lu la Bible 7 fois, claironnais-je, pour montrer de quoi je parlais. » Petit garçon blond coiffé à la Jeanne d'Arc, et j'avais une assurance désarmante et une oreille déjà très exercée. Ainsi, lorsqu'un jour j'allais entendre une pianiste à Monte-Carlo, je revins outré. Elle a joué tout le concert avec un mi bémol faux. Elle aurait pu le faire accorder quand même. Malgré mes dons incroyables, ma facilité, ma mémoire déconcertante, je décrétais « Moi, je ne veux pas être musicien. La musique, ça m'amuse, mais quand ça ne m'amuse plus, je m'arrête. Dans un concert, bien sûr, je vais jusqu'au bout. Mais dès que je m'ennuie, je joue moins bien. » Quel concert, pensais-je en disant cela? J'en avais donné si peu à cette époque. Celui avec Mascagni, peut-être, où à 6 ans, j'avais joué un concerto de Mozart. Allez savoir. Thank you. Lorsque mon professeur de piano niçois quitta la ville, ma mère demanda à Mademoiselle Gauthier si elle accepterait de me faire travailler. Elle refusa, expliquant avec son habituelle modestie qu'elle ne se sentait pas de taille à prendre en main un tel sujet. Samson est follement doué, exceptionnel. Il faut que cet enfant ait des diplômes. Et elle insista auprès de ma mère pour que j'entre au conservatoire. Conseil que maman s'empressa de suivre. En octobre 1933, je fus brillamment admis en classe supérieure de piano. Je faisais 5 heures de piano par jour. J'avais 9 ans. J'allais à l'école et mes journées étaient bien remplies. Ce qui, au demeurant, ne m'empêchait pas de profiter de la mer. J'adorais nager et je restais des heures et des heures dans l'eau. J'y évoluais comme un poisson et ma pauvre mère avait toutes les peines du monde à me rappeler à terre. Ces baignades constituaient mes uniques distractions. J'étais déjà très personnel, imprévisible, fantasque, extravagant, facilement teigneux et n'avais aucun camarade. Peu démonstratif, c'était à ma mère que je réservais toutes mes capacités d'affection. Je refusais catégoriquement que l'on m'embrasse et semblait éprouver un malin plaisir à mettre hors d'eux ce qui m'approchait et me manifestait de l'intérêt. Pourtant, il faut croire que je trouvais un bon équilibre dans cette existence puisque ma scolarité, tant classique que musicale, se déroulait sans problème. Le 12 juin 1935, je décrochais haut la main mon premier prix au conservatoire de Nice. J'avais 11 ans. Mademoiselle Gauthier, qui avait suivi mes progrès, affirmait qu'il n'y avait qu'un endroit au monde où mes dons pourraient s'épanouir. Paris. Elle poussa ma mère à profiter d'un concert qu'Alfred Cortot venait donner à Nice pour me présenter au maître. Cortot, gloire du piano, dieu des romantiques. Il accepta de me voir à son hôtel et en 10 minutes fut convaincu. « Je veux avoir ce garçon dans ma classe à l'école normale. »« Mais maître, l'argent, mais ce ne doit pas être un problème, l'argent. Je le ferai travailler gratuitement. » Dès lors, dès la rentrée prochaine, je l'attends à Paris. Cette merveilleuse générosité ne pouvait cependant tout résoudre. Pour que mon père ait plus de chances d'obtenir du Crédit Lyonnais sa mutation à Paris, préalable indispensable, Cortot lui écrivit pour confirmer ce qu'il pensait de moi. « Après avoir entendu votre fils, il me paraît indispensable au développement de ses remarquables facultés musicales qu'il suive à Paris, soit les cours de l'école normale, soit ceux du conservatoire. C'est la carrière tout entière de votre enfant qui est en jeu. » Muni de cette lettre d'appui, mon père fit le siège du Crédit Lyonnais. Le président de la banque, finalement alerté, mena l'affaire avec autant de diligence que d'efficacité et mon père obtint sa mutation pour la capitale où nous débarquâmes le 1er juillet.
spécial pour l'orchestration de Ravel quand même, parce que c'est absolument somptueux.
Génial.
Et alors le jeu de Samson François qui est d'une élégance.
Et le technicien aussi qui a remasterisé. Oui. Franchement, c'est mieux que la version d'avant.
Officielle.
Extraordinaire.
Les disques que nous entendions là sont des enregistrements de 1959, 1957, 58, 60, les années 60 en général. Je le répète parce que c'est un coffret magnifique. Samson François et André Cuitens à la direction. De l'orchestre de la Société des Conservatoires. Et donc, c'est la version complète des œuvres pour piano et des œuvres orchestrales de Ravel. C'est chez Erato. Oui. Je crois que ça vient de sortir, plus ou moins. Enfin, c'est une reprise qui est tout à fait somptueuse. Voilà.
Je propose de passer tout l'été avec Samson François.
Et c'est une très bonne idée,
Mélisande.
Bravo.
Accordé.
Avec plaisir.
Merci Eric.
Merci Didier.
Et
merci
Mélisande
avec Samson François.
Venez d'entendre le libre journal de la musique et de la culture de Didier Rochard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le 9 juin 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Claudia et Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.